Bonjour et bienvenue sur Radio Le Dev, il est 20h et nous nous retrouvons pour la seconde émission du Bruit dans les feuilles, l'émission radio de Pays Arbres. On est trois membres de l'association aujourd'hui dans le studio, c'est Tanguy.
Bonjour.
Martin.
Bonjour.
Et moi c'est Anna. Bonjour.
Ça y est, c'est parti.
C'est quoi ?
Mais qu'est-ce que c'est ?
Mais enfin, c'est du bruit dans les feuilles, l'émission de l'association Pays Arbres. Et ça se passe le troisième mercredi de chaque mois à 20h sur Radio Lodev.
Voilà, avant de commencer cette émission, on voulait faire une spéciale dédicace aux nouveaux membres actifs de Pays Arbres. On est très heureux d'accueillir Yacine, Ninon et Chloé, nouveaux petits êtres, fils et filles de nos membres actifs les plus dévoués et les plus efficaces de l'association qui sont pas là avec nous aujourd'hui au studio parce qu'ils pouponnent un peu avec leurs nouveaux venus. Du coup, on démarre avec Anna qui, encore une fois, va nous faire la maîtresse du temps avec sa petite cloche et annoncer les diverses chroniques de l'émission.
Voilà, c'est la petite cloche des brebis qui annonce la chronique L'Arbre du Mois qui est présentée par Tanguy.
Je vais vous parler du chêne vert. Et pour introduire mon propos, j'ai envie de citer le livre que je vous ai déjà présenté, qui est le livre de Pierre Liotagui, qui s'appelle « Le livre des arbres, arbustes et arbrisseaux », qui est édité chez Actes Sud. C'est vraiment une bible. Alors, je ne vais pas vous lire tout le chapitre sur le chêne, il est très très grand, mais juste, je vais m'inspirer de son introduction et vous la lire. Quand, dans les petits matins, le train descendu des plaines du Nord pénètre dans la basse vallée du Rhône, le voyageur, que les paysages nouveaux ne laissent pas insensible, sait d'un seul regard aux collines qu'une frontière est franchie, qu'il entre dans un nouveau monde. En hiver surtout, la transition est manifeste. Il laissait un pays gris où la plupart des arbres avaient perdu leurs feuilles, il voit des bosquets verts sur les coteaux, il croit retrouver l'été. C'est au chêne vert que la région méditerranéenne doit cette éternelle verdure. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler du chêne vert. Dans la région, on l'appelle aussi le yeuse ou la yeuse. Ça donne souvent beaucoup de lieux-dits qui portent ce nom, yeuse. C'est un nom étrange, moi je l'aime bien en bouche, il est très agréable. Moi le chêne vert, ça m'évoque ça, surtout ça m'évoque les premières nourritures. C'est-à-dire que bien avant qu'on invente l'agriculture, avant le néolithique, quand on vivait encore dans des sombres forêts de chênes verts, entre autres, et de chênes blancs sur les endroits les moins secs, finalement, on se nourrissait de glands. L'humanité, pendant des décennies et des milliers d'années, s'est nourrie de glands. Alors aujourd'hui, ça peut paraître un peu rébarbatif, mais finalement, le gland, ça se mange. La plupart des glands sont très tanniques, c'est-à-dire qu'il va falloir les laver à plusieurs eaux, où il y a j'ai retrouvé des vieilles traditions qui font état de lavage aussi dans les ruisseaux, c'est-à-dire qu'on laissait les glands pendant de nombreuses semaines dans des ruisseaux, de manière à ce que le tanin qui est soluble dans l'eau puisse s'en aller. Et derrière, on pouvait faire des farines et cuisiner le gland. Je vous invite à goûter, c'est tout à fait étonnant. Je voulais aussi rajouter qu'on connaît des espèces de chênes verts qui sont comestible directement sans tanin. Je pense en particulier à la variété Balotta, qui est très cultivée dans le Haut Maghreb. Il y a des forêts entières. Moi, j'ai un petit peu voyagé au Maroc. Il y a des forêts entières de chênes verts comestibles. C'est très, très beau. C'est des paysages magnifiques qui, en plus, sont pâturés. Ça ressemble un peu à la dehesa espagnole aussi. Mais là, en Espagne, les glands servent à la nourriture des cochons. Néanmoins, ces paysages sont un peu nos premières cultures nourricières, finalement. Le chêne vert, on le reconnaît, donc, d'une part, comme disait Liotagui, il garde tout le temps ses feuilles. Et il a des petites feuilles très piquantes, qui le fait un peu ressembler au hou. Et d'ailleurs, son latin fait référence au hou. Le latin du chêne vert est très intéressant. Il s'appelle Quercus ilex. Alors, pour beaucoup, ilex, c'est une référence au hou, qui porte le même latin. Moi, j'ai fait des recherches. Et dans certains bouquins, j'ai trouvé d'autres références sur l'étymologie de ce Quercus ilex. Il faut savoir que dans les langues indo-européennes, le suffixe lex était assimilé aussi à leg. Et lex et leg, c'est une référence directe à la loi. Mais son premier sens, le premier sens de lex et de leg, c'est la glane, à savoir ramasser des fruits. Et c'est intéressant de se dire que, étymologiquement, on a d'abord parlé de glane pour ensuite parler de loi, Parce que finalement, un jour, quand les clairières se sont étendues dans le domaine des hommes, il a fallu décider à qui était ce chêne vert et à qui allait appartenir la nourriture. Du coup, c'est un peu, moi j'en parle dans mes conférences, je dis souvent que c'est l'arbre qui est à l'origine de nos lois. Pour la petite histoire, ce petit suffixe lex, leg, qui veut dire glaner, on le retrouve aussi dans légumes. Légumes, finalement, c'est savoir choisir les choses qui sont nourricières et qui ne vont pas nous empoisonner. C'est encore une fois faire le bon choix. On va retrouver ce suffixe lex et leg dans tout ce qui a rapport à la loi, donc légiférer, l'égalité, mais aussi dans logos, le savoir, le langage, et par extension dans interlégueré, l'intelligence. Encore une fois, faire le bon choix, donc on est toujours en lien à la glane. Donc voilà, cet arbre, le chêne, il a marqué nos sociétés profondément parce que c'est notre première demeure. Et quand on étudie aussi les anciens mythes, ils font tous référence à un moment ou à un autre à des endroits sacrés, à des forêts sacrées. Hein, les arbres, c'est un peu nos premiers dieux avant que par syncrétisme les religions les récupèrent. On retrouve toujours cette symbolique très forte du chêne qui est bien évidemment liée à l'éternité et liée aussi au renouveau. L'arbre du renouveau, l'arbre qui est toujours vert, c'est notre chêne vert et c'est vraiment un symbole méditerranéen. Il faut savoir que quand on laisse un terrain en friche, au bout de quelques centaines d'années, on va revenir à la chênaie en Méditerranée. Hein, c'est vraiment une des caractéristiques de la Méditerranée, c'est-à-dire que à la fin, y a-t-il une fin, mais à la fin de la succession écologique, c'est le chêne qui va reprendre sa place. Alors pas toujours le chêne vert, il a un voisin avec qui il participe de la forestation de nos environs, qui est le chêne blanc, que les botanistes appellent chêne pubescent, parce qu'il garde ses feuilles tout l'hiver, il les perd quoi, la pousse du nouveau printemps. Et maintenant qu'on s'approche un peu de Noël, y a vraiment une symbolique du renouveau et on la retrouve aussi dans des rites qu'on peut croire chrétiens mais qui sont païens aussi, l'idée de l'arbre de Noël. Finalement ce sapin c'est aussi cette idée du toujours vert, cette idée du renouveau et c'est très lié donc à ce moment de l'année où on arrive au solstice d'hiver et où les choses vont repartir finalement quand vous écouterez cette émission on est à deux pas du printemps, les jours vont rallonger et on est en route vers le printemps et tous ces arbres ils ont pendant longtemps été le symbole de tout ça. Je vous invite à vous promener en forêt et à redécouvrir ce chêne qui finalement, il est très commun, on finit par plus le voir du tout, mais il est omniprésent, il s'adapte sur tous les sols et c'est vraiment un de nos voisins feuillus très touchant et qui par sa symbolique nous amène sur plein de chemins.
Merci Tanguy pour cette chronique et nous passons le micro à Martin pour le chasseur de son. C'est toujours Raymond que nous avons écouté la dernière fois déjà, qui va nous parler...
Des liquides.
Voilà.
Enfin, de différents liquides. Elle va parler principalement de l'eau, qui est une ressource rare et précieuse dans la région, et de l'organisation autour de la répartition des canaux d'irrigation. Et elle va parler aussi d'un autre liquide très important dans nos vies aussi, de l'agnole et du vin. Voilà. On écoute Raymond.
Ce sont des racines de gentiane.
Il y avait un distillateur qui venait ici ou il y en avait un qui était en bouillon de cru
Non. J'ai pas connu ici le bouillon de cru qui se déplaçait. Nous le portions à la distillerie à l'Odem. Mais à ce moment-là, on faisait pas mal d'apéritifs. Allez, à tes plantations.
C'est bon, hein.
Voilà, c'est l'amertume de la gentiane.
Il y avait des béales partout quoi, pour l'irrigation quoi,
oui.
Mais c'est complètement abandonné.
Chacun avait son heure, son jour et son heure pour arroser. Ouais. Il y avait des prairies, on arrosait les prairies avec les droits d'eau. Alors au départ, comment ça a été distribué, je ne sais pas. Qui a pris l'initiative par rapport aux heures, par rapport aux surfaces, par rapport... Je ne sais pas qui c'est qui a pris l'initiative, mais après, vu que tu avais le calendrier, tu réclamais ton eau quand ça t'était dû. Voilà. La chose qu'il y a, c'est que l'eau est à tout le monde. Tu ne peux pas la garder pour toi dans ton trou, là. Voilà. Et alors, tout ça, c'est cause de disputes dans les villages. Parce que tu as ton heure d'eau, de 8h à 2h du matin, par exemple. Celui qui l'a à 2h, il se trouve qu'à 10h, il passe par là. Hop, je ne vais pas attendre 2h. Il met la vanne. Alors toi, tu as cru d'arroser ton pré jusqu'au fond. Et puis elle a avancé un peu, mais là-bas au fond, elle n'y est pas arrivée parce que l'autre qui est passé par là.
Vous faisiez une raie comme ça, dans le. Comment on dit en courbe de niveau, quoi.
Oui.
Un peu en pente, et ça a inondé cette raie, et puis l'eau perlait à travers la terre, et au fur et à mesure, ça avançait.
Non. Il y avait le ruisseau principal, et il y avait des petits départs d'eau. Ces petits départs d'eau, au départ, c'était assez un peu grand, puis un peu plus petit. Puis... Et alors, de temps en temps, pour partager l'eau qu'elle se répande, tu mettais un caillou là, par exemple, et l'eau, au lieu de partir tout droit, hop, elle se répandait un peu partout. Parce qu'on arrosait les jardins pareil avec, comme ça.
À l'arrêt, quoi.
À l'arrêt. Mmh. Alors, c'est pareil. Si tu as ta raie qui va dans le sens qu'il faut, c'est bon. Si elle monte un peu, pof, tu n'as plus rien qui passe.
C'est très précis. Alors, il faut... quand même, hein.
Alors moi, j'aime ça. Mmh. Et quand je vois maintenant dans la commune qu'il n'y a aucun ruisseau qui est fait dans les chemins, rien qui est entretenu, que l'eau, elle arrive de là-haut, elle te prend le chemin là, elle te le... Ah, ça me dépasse, ça.
Il y a un abandon total de la gestion de commune de l'espace.
Est, voilà, de ça.
C'est tout dévolu au service de l'État, quoi.
Quand j'ai été à la mairie, il m'était dévolu l'entretien, comme ça, des chemins, tout ça, c'était ma partie à moi. Quand je voyais l'orage qui arrivait, je disais, putain, où c'est que tu n'as pas nettoyé une buse bouchée ou des choses comme ça. Mais c'est que je me serais levée presque pour aller déboucher la buse. Ah, oui. L'habitude, j'ai vécu là-dedans. Voilà. J'ai vécu là-dedans. Maintenant, celui qui ne connaît pas, il ne connaît pas. Hein. À la mairie, c'est... ils sont pas, ils touchent pas la terre, tout ce qui est
la
vie de la nature. Voilà. C'est bien ça.
Et vous, Olivier, vous en aviez comme ça, vous, pour...
Non. Les quelques-uns qu'on a mis en état, c'est à la retraite après. Qu'on a coupé le genêt qui était plus haut que les oliviers. Et on s'est chauffé avec le bois. Et on a rajeuni les arbres. Et on a eu des olives, on faisait notre récolte d'huile, c'était bien quoi. Et moi j'aime l'arbre, j'aime...
Voilà, c'était Raymonde. Elle aime l'arbre, alors on a dû... voilà, le montage c'est parfois difficile et j'ai fait ce que j'ai pu. Il nous manque un peu des bouts de phrases. Mais voilà, moi j'aime beaucoup ce témoignage. C'était bon la gentiane, Martin ?
Ouais, très bon, très bon. On n'a pas bu beaucoup, hein.
Moi, ça me ramène au Maghreb aussi, parce que j'ai encore vu des populations paysannes très actives sur les chemins d'eau. Quand ils irriguent leurs oliviers, il y a vraiment... Je ne l'ai pas connu sous nos contrées, mais on se rend compte finalement qu'il y a un vrai travail paysan de gestion du paysage qui a vraiment disparu. Et c'est touchant, ce témoignage, de voir comment les choses ont changé en ces 50 dernières années. Donc merci à Raymond pour ce témoignage très touchant.
Ouais, puis la gestion de l'eau aussi, il faut savoir que... Alors elle parle de l'eau d'irrigation, donc aujourd'hui on a des asperceurs, des pompes, tout ça. Et là c'était une gestion de l'eau vraiment basse technologie, quoi. Il n'y avait pas besoin de pompes, tout était par gravité. Donc d'où l'importance des canaux d'irrigation. Et c'est vrai qu'il y a encore quelques personnes qui font le jardin comme ça en arrosant à l'arrêt, quoi. C'est-à-dire en faisant circuler l'eau en courbe de niveau. Et c'est vraiment une manière de faire un entretien très intelligent, on va dire, avec beaucoup de savoir et de précision. Et elle parle aussi de l'entretien des chemins et des ruisseaux, et ça me touche beaucoup, parce qu'avec les inondations qu'on a vécues, je pense que c'est des choses qu'il faut vraiment réfléchir, et que c'est un peu à tout le monde de gérer l'espace commun, d'entretenir les fossés et tout, faut pas attendre tout le temps de la mairie ou de l'État, faut aussi s'y mettre.
Et oui, c'est une thématique qu'on va aborder souvent, hein. C'est un peu notre slogan, retrouve le paysan qui est en toi, implique-toi, touche ta terre, et vas-y quoi, on y va.
On va écouter un petit morceau de musique ensemble du groupe SDA. C'est un groupe de house des années 80 et le morceau s'appelle Vous êtes un arbre.
Vous représentez un arbre que vous avez connu ou particulièrement aimé. Arbre, vous le placez dans le cadre de votre choix. Un, vous à l'écoute. 2. Vous n'avez qu'une idée. 3. Vous êtes heureux. Vous êtes calme.
Alors j'espère que vous avez bien aimé cette petite méditation de l'arbre revisité. Nous on s'est dans le studio pas mal détendu.
On est complètement hypnotisés.
Hypnotisés par la méditation de l'arbre. Et nous passons maintenant au dicton du mois qui dit « Froid et neige de décembre, du blé à revendre ». Alors nous allons en parler. Ça veut dire quoi la neige? Est-ce qu'elle apporte quelque chose pour l'année prochaine, si on a de la neige maintenant?
Alors la neige, on est loin du compte, hein. Espérons que le froid arrive un petit peu en janvier et février. On a souvent des dictons comme ça qui font état de moments neigeux, et c'est un engrais finalement, azoter la neige. On dit souvent que ça va relancer la pousse au printemps, et que derrière la neige, je ne sais pas si vous êtes déjà baladé dans les Alpes à la fonte des neiges, mais vous avez des floraisons extraordinaires. Finalement, la neige, c'est un enrichisseur et c'est un engrais pour le sol. Voilà, donc il y a beaucoup de dictons qui font référence à ça. On a choisi celui-là. C'était un peu difficile de trouver le dicton de décembre. Il y en avait un autre qui nous faisait rire, mais qui est un peu moins sérieux. C'est « Pingouin dans les champs, hiver méchant ». Voilà, je vous le donne quand même parce qu'on a bien rigolé en cherchant des dictons, mais il est un peu moins sérieux. Mais la neige en hiver, ouais, c'est un bon engrais.
Merci Tanguy. Nous passons aux travaux du mois, notre chronique sur la plantation et les greffes. À toi, Martin.
Et les greffons.
Et les greffons.
Donc voilà, le mois de décembre, bah, c'est un très bon mois pour planter vos arbres fruitiers ou ornementaux à racines nues. Pourquoi c'est un bon mois? Parce que y a plus d'activité végétative, on va dire. Hein, les arbres sont au repos. Et plus tôt vous plantez votre arbre, plus il aura le temps de faire des racines avant de redémarrer au printemps. Donc plus tôt on plante, à partir, on dit, de la fin novembre, à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine, qui était le dicton du mois dernier. Voilà. Donc pour bien planter un arbre, bah, déjà il faut choisir un arbre rustique si possible, choisir votre variété qui soit adaptée à vos conditions de sol, choisir le bon porte-greffe. Choisir aussi par rapport à votre exposition, votre ressource en eau ou pas. Faites un trou relativement grand, on va dire au minimum 50 par 50. Après, ceux qui ont de la force et du courage peuvent faire de grands trous, c'est bien, ça fera de la terre aérée pour la reprise racinaire. Surtout pas de matière organique au fond du trou, hein. Ça parfois on le voit dans les livres, c'est pas bon du tout. On essaye de juste bien remettre la terre autour des racines, bien l'envelopper. Il faut praliner les racines aussi. Alors praliner les racines, c'est tremper les racines dans une bouillie, on va dire, qui est composée d'argile et d'eau. On essaye d'avoir une texture pâte à crêpe pour envelopper toutes les racines dans une petite gangue argileuse qui va empêcher le dessèchement et favoriser la reprise. Donc voilà, vous avez fait votre pralinage des racines, vous plantez votre arbre, vous remettez bien la terre autour, on tasse un peu, on peut arroser si on a peur qu'on n'ait pas bien rempli de terre pour que la terre coule entre les racines. Si possible, il vous faut pailler votre arbre. Alors pailler, ça veut dire recouvrir d'une couche de matière végétaux type broyat, paille, feuilles mortes, ou alors des cartons en dernier recours. Pour éviter la pousse d'herbe au pied de l'arbre, parce que c'est un facteur, ça va empêcher l'arbre de pousser, en fait, ça va le ralentir tout du moins. Donc il faut au moins les deux premières années ne pas avoir d'herbe au pied de l'arbre. Posez un tuteur si vous êtes en situation ventée. Si l'arbre est petit, il n'y a pas forcément besoin de tuteur parce qu'il a une moindre prise au vent. Pensez à tailler aussi, à la replantation. On retire au minimum un tiers de la pousse de l'arbre parce qu'on a quand même retiré des racines, donc il faut rééquilibrer tout ça. Je ne sais pas si vous voyez d'autres choses à redire par rapport à la plantation.
J'ai une question. Si on veut planter un chêne vert, il ne s'arrête pas l'hiver, comment on fait?
En effet, Tanguy, très bonne question. Les espèces à feuilles persistantes, donc qui gardent leurs feuilles, donc type chêne vert, vous allez me planter de chêne vert, ça peut être original, mais ça peut être un chêne truffier, qui est aussi une thématique des mois d'hiver, ou alors un olivier ou un néflier du Japon ou la bibasse. Donc toutes les espèces persistantes, on va les planter plutôt au printemps et surtout on va les planter, généralement elles vont être vendues en pot ou alors tout du moins en motte, parce que si on les a à racines nues, vu qu'il y a toujours des feuilles, il y a toujours de l'évaporation, donc on ne peut pas laisser les racines nues à l'air libre. Donc généralement c'est des espèces qui s'achètent en pot et on les plante plutôt en terre chaude. En terre chaude, c'est pas le mois de juillet, c'est à la fin de l'hiver, quoi. On va être sur début mars. Voilà. On va parler d'une autre chose qui sont dans les travaux du mois, mais Tanguy va continuer là-dessus. C'est le moment de commencer à préparer vos greffons, à commencer à prélever les greffons. Vous avez tout le mois de janvier pour le faire, mais on va en parler un peu.
Alors ouais, je vais en parler et je vais faire une petite digression. Rappelez qu'à Paysarbre, on mène depuis maintenant 2 ans, enfin on a lancé un grand inventaire des fruits du territoire. Alors c'est très présomptueux, c'est comme ça, mais j'en profite à chaque fois qu'on est à la radio parce que c'est vraiment important. Si vous nous entendez chez vous et que vous avez un vieil arbre fruitier dans votre jardin, eh ben sachez qu'il nous intéresse beaucoup, que je me ferai un plaisir, souvent c'est moi qui me déplace, de venir le voir, que vous me racontiez un peu ce que c'est les fruits, et puis ben, si c'est une variété intéressante, dans tous les cas, on en fera une description. C'est vraiment, vraiment, vraiment important de recenser ces vieux arbres. Il faut savoir qu'on a perdu ces 50 dernières années énormément de la diversité fruitière qui faisait l'identité de nos paysages. Et aujourd'hui, vous avez peut-être au fond de votre jardin un arbre dont vous êtes le seul détenteur. Et si on ne le reproduit pas, il va disparaître. Donc voilà, on compte sur vous. Anna, tu voulais rajouter quelque chose ?
Oui, il me semble que le dernier week-end de janvier, donc le dimanche, a priori, vous me corrigez, il y aura la bourse d'échange de graines à l'ODEV, donc à la salle du Triomphe, et nous y tenons avec Paysarbre un stand, une bourse au greffon. Voilà, c'est l'occasion, maintenant c'est un peu tôt peut-être, mais c'est l'occasion d'annoncer cette bourse au greffon pour ceux qui veulent amener des greffons.
C'est super que tu dis ça, c'est vrai qu'on est content de travailler avec les semeurs du Lot-des-Voies-Larzac. On va tenir une banque au greffon. Alors un greffon, c'est quoi? C'est un peu de ça que je voulais vous parler. Pendant le repos végétatif, vous allez pouvoir récupérer les pousses de l'année précédente, c'est-à-dire le bois bien lisse qui porte les derniers bourgeons de l'arbre. Avec ces petites bouts de branches, on va pouvoir, par le biais de la greffe, c'est un peu l'activité phare de notre association, regreffer des vieux arbres sur des jeunes pieds, sur des jeunes racines, pour leur donner une autre vie, les faire continuer à vivre et les faire continuer à exister sur nos terrains. Du coup, ces greffons, on les ramasse en repos végétatif et on les conserve. Il y a Martin qui me fait des gestes bizarres. J'ai dit une bêtise ?
Non, mais on a dit qu'on en parlerait en janvier.
Ah, on parle des greffons en janvier, mais alors c'est de quoi dont je devais parler ?
C'est tout, l'inventaire fruitier, c'est tout.
Ah ben voilà, alors j'ai parlé de l'inventaire fruitier, vous ne saurez rien de plus pour les greffons, vous le saurez le mois prochain.
Donc il faut nous écouter.
Vous serez obligé de
vous
revenir.
L'eau à la bouche. C'est le moment donc de vous annoncer pour l'année prochaine, vu qu'on parle des futurs événements, la présentation, la petite fête de l'arbre qui se prépare donc pour le mois de février, l'année prochaine 2017. L'année dernière, ça s'est tenu en mars, donc là, on est un peu plus tôt avec vous pour justement aussi parler et inviter des pépiniéristes locaux qui seront là avec nous en février. Donc, c'est le week-end du 24, 25, 26 février, donc à l'Odev et aux alentours, donc sur le plateau du Larzac aussi. On va vous concocter un petit week-end autour de l'arbre et surtout la thématique de l'arbre dans nos campagnes, avec des sorties forestières, des sorties agro-silvopastorales sur le plateau, des films et des conférences. Peut-être, si tu veux, Tanguy, parler de ça en particulier.
Juste pour vous dire, on va accueillir Ernst Zürcher, qui est un monsieur, un professeur qui a travaillé en Suisse toute sa vie et qui travaille sur la cosmologie à travers les arbres. C'est absolument passionnant et ça sera notre invité vedette de la petite fête de l'arbre 2017, mais on vous en reparle au mois de janvier.
Oui, juste pour cette thématique de l'arbre dans nos campagnes, je voudrais rajouter qu'on cherche et qu'on essaye de développer une petite rencontre entre vignerons et le public, et pourquoi pas aussi des chercheurs, donc faire toute une après-midi rencontre-débat autour de l'arbre dans nos campagnes viticoles, plus précisément. Donc si vous connaissez ou vous êtes vigneron, vous travaillez la vigne et vous avez un goût pour les arbres et la coplantation par exemple, ou l'arbre en général dans la viticulture, vous n'avez pas peur des arbres donc. En tant que vigneron, voilà, parlez-nous-en. On est très ouvert à toute proposition pour inviter et puis faire parler et débattre sur cette thématique. Voilà.
Même pas peur.
Même pas peur. Oui.
Donc si vous n'avez pas peur des arbres, vous pouvez nous rejoindre. C'est le dimanche. Ça sera le dimanche 26 février. On fait une table ronde sur la thématique vigne et arbres.
Pour finir sur nos contacts, parce qu'on vous dit de nous contacter, mais comment? C'est surtout par mail, si vous voulez, sur le mail de paysarbre@mailou.org, donc pays et arbre tout attaché ensemble, pays avec S et arbre au singulier, @mailou, mailou.fr.
Point org.
Merci Tanguy. Et nous terminons sur notre petit conte de Noël que Tanguy nous a amené pour clôturer cette émission du bruit dans les feuilles.
Eh ben oui, quand même, c'est les fêtes. Alors je me suis dit que... En plus, on devait avoir un invité qui n'est pas venu. Alors je me suis dit, oulala, on ne va jamais meubler nos 25 minutes. En fait, je me rends compte qu'on est presque en train de dépasser le temps parce qu'on cause quand même pas mal à la radio. Voilà, je me lance. C'est la légende des quatre mendiants. C'est complètement de circonstance. Il était une fois quatre garnements au nom prédestiné. Ils s'appelaient Sans Souci, Sans Le Sou, Propre à Rien et Meurt de Faim. Ils vivaient au gré de leurs envies, dormant la plupart du temps et ne s'éveillant que pour obtenir en mendiant le peu qui leur était nécessaire pour survivre. Mangeant peu, ne se lavant pas, ils n'étaient pas beaux à voir et n'inspiraient aucune confiance à qui avait le malheur de les croiser. Or, voilà qu'un jour, un orage d'une violence inouïe éclate et un pauvre étranger perdu leur demande l'asile en attendant que le ciel ait déversé son trop-plein de colère. Bon bougre tout de même, ils laissent entrer l'étranger dans leur misérable hutte. À la fin du déluge, l'étranger les quitte, non sans leur promettre de leur envoyer à chacun une boîte où ils trouveraient quelque chose à planter en terre et à soigner de tout leur cœur. Lorsque les boîtes arrivent, ils obéissent et plantent ce qu'ils y trouvent, plants de vignes et de figuiers, noyaux d'amandes et de noisettes. Le terrain est inculte, mais les arbres y poussent et les quatre mauvais sujets apprennent même à sécher les fruits, puis ils les vendent pour composer un dessert d'hiver. Sans souci, sans le sou, propre à rien et meurent de faim, gagnent de plus en plus d'argent et travaillent de plus en plus. Mais pour ne pas oublier qui ils étaient et se souvenir toujours du temps passé, ils décident d'appeler leur marchandise les quatre mendiants. Voilà, aujourd'hui encore, on peut déguster ce dessert composé de quatre sortes de fruits séchés, que sont les figues, les noisettes, les raisins et les amandes. On dit que ce nom se rapporte aussi aux quatre ordres mendiants, les raisins secs pour les dominicains, les figues sèches pour les franciscains, les noisettes pour les augustins et les amandes pour les carmes. En Provence, il y a vraiment cette tradition des 13 desserts à Noël et les quatre mendiants en font partie. Voilà, c'est pour ça que j'avais envie de partager cette petite histoire avec vous. Pour finir cette émission, je voulais vous remercier pour votre écoute bienveillante, vous redire qu'on n'est pas du tout des professionnels de la radio, nous excuser d'avance pour tous nos « e » et nos « faux pas ». On est quand même très content d'être là et de vous causer dans le poste. Je vous dis au mois de janvier et on se quitte avec un morceau de musique spécialement dédicacé à une de nos membres actives qui n'a pas pu être là aujourd'hui et qui le regrette et qui aurait bien voulu nous assister en technique, c'est Raphaël. Elle nous a conseillé sur ce dernier morceau pour se quitter. Anna, c'est quoi le dernier morceau de musique?
C'est « Il nous faut peu pour être heureux » et vous le connaissez tous.
Allez, joyeux Noël, joyeuses fêtes et à l'année prochaine.
Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature, quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons et toute la jungle et ma maison. Toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon, c'est doux. Il en faut vraiment peu, très peu, pour être heureux.
Mais oui.
Pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché. Cueillir une banane, oui, ça se fait sans astuce. Mais c'est tout un drame si c'est un cactus. Si vous chipez des fruits sans épines, ce n'est pas la peine de faire attention. Mais si le fruit de vos rapines est tout plein d'épines, c'est beaucoup moins bon. Alors petit, as-tu compris? Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux.
Pour être heureux?
Pour être heureux. Oh,
que c'est bon de vivre. Essaie et détends-toi. Oui, rafraîchis-toi. Mets-toi à l'aise. Viens sur mon ventre. Et laisse-moi te dire une chose, petit frère. Si tu travailles comme cette abeille, tu te rendras malade. Ne gâche pas ton temps pour l'impossible. Et si tu peux le trouver, alors tant mieux pour toi.
Et tu verras que tout est résolu lorsque l'on se passe des choses superflues. Alors tu ne t'en fais plus. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux.
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis.
Youpi.
Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez.